Et tout de suite, juste avant la revue de presse avec Benjamin Glaise, avec vous, hashtag on en parle.
Oui, on en parle, il y a évidemment énormément de vidéos et d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et parmi elles, eh bien, vous avez repéré une vidéo qui fait le tour de ces réseaux, la réponse de soldats ukrainiens à la marine russe avant d'être abattus. L'échange est particulièrement marquant.
Hein. Oui, 13 soldats ukrainiens qui avaient pour mission de défendre cette île, l'île ukrainienne dite des serpents, un petit îlot, hein, 662 mètres sur 440, situé donc dans la mer Noire. Et il y a quelques heures, un navire de guerre russe s'est approché de cette île pour s'en emparer. S'en est suivi cet échange entre un soldat de la marine russe et l'un des soldats ukrainiens présents sur l'île. Écoutez. Nous sommes à un navire militaire russe. Pour éviter un bain de sang et des pertes injustifiées, nous vous proposons de vous rendre immédiatement. Sinon, vous serez bombardés. S'ensuit, vous l'entendez, un échange à voix basse côté ukrainien. Avant cette réponse cinglante du soldat, navire militaire russe, allez vous faire foutre. Ouais, la réaction russe a été pour le coup immédiate sur ces 13 soldats ukrainiens présents sur l'île. Aucun survivant, ils ont tous perdu la vie dans le bombardement qui a suivi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce matin leur héroïsme. Ils seront d'ailleurs élevés officiellement, il dit, ce président ukrainien, dans les prochaines heures, au rang de héros de la nation.
Oui, c'est ça. Les journaux, évidemment, quand on les lit ce matin, qui consacrent quasiment tous leur une à la guerre en Ukraine. Hein.
Oui, effectivement, forcément du côté du Parisien, notamment, qui reprend les mots d'Emmanuel Macron, un tournant dans l'histoire de notre pays, avec l'image de ce char russe, un colosse blindé qui pointe son viseur sur nous. La guerre en Europe, titre Le Figaro, l'impensable pour Libération. Libé qui montre en gros plan l'explosion d'un bâtiment après une frappe russe en pleine ville. La Russie a envahi l'Ukraine jusqu'à atteindre la capitale Kiev et la centrale de Tchernobyl, tandis que la résistance s'est écrasée. C'est le scénario du pire pour une guerre qui ne devait pas avoir lieu, lance Libé. Interrogé par Le Quotidien, le chercheur Bruno Tertrais nous explique que les racines de cette crise sont à trouver dans la paranoïa du régime russe. Poutine donne tous les signes d'un dictateur aujourd'hui enfermé dans une bulle politique et sanitaire. L'opinion, pour sa part, a aussi tenté d'expliquer, je cite, les raisons profondes de la guerre. Comment en est-on arrivé là, se demande Jean-Dominique Mercher dans son édito. Poutine est à l'évidence le premier responsable de cette brutale dégradation de la situation internationale. Désormais, dit-il, il n'y a plus qu'à signer le constat de notre impuissante faute d'une dissuasion efficace. Nous avons la guerre.
Oui, une guerre qui frappe évidemment la population ukrainienne.
Hein. Oui, cette photo notamment très forte, hein, le visage d'une femme en une de Nice ce matin. Elle a le visage stuméfié, couvert de pansements, un œil rouge. Le monde sous le choc, titre en une le journal. Une attaque massive sur tous les fronts, donc. Témoignages, analyses et réactions à lire dans Nice ce matin. Des témoignages d'une population épargnée par cette guerre. La Russie envahit l'Ukraine, titre sobrement Ouest France. On y viendra dans un instant. Et puis, effectivement, derrière ce désarroi, il y a l'inquiétude qui règne dans toute l'Europe. Les craintes presque égoïstes, pourrait-on dire, au vu de, eh bien, des morts sur place. Conséquences sur notre quotidien, l'économie qui vacille donc depuis 24 heures. Les craintes pour l'économie mondiale font plonger les marchés, explique en première page Le Figaro. Le conflit en Ukraine provoque une flambée des prix des matières premières et de l'énergie, notamment des cours du pétrole au plus haut depuis 2014. Inquiète d'un ralentissement de la croissance, les bourses internationales ont lourdement chuté jeudi à l'image de celle de Paris, moins 3,4% pour le CAC 40.
Oui, c'est ça. Et derrière ce désarroi, l'inquiétude qui règne dans toute l'Europe.
Hein. Oui, effectivement, j'en parlais. Inquiétude aussi pour la présidentielle en France.
Oui, la question présidentielle.
Qui se pose sur la tenue même de l'élection. La campagne présidentielle en pause, ça c'est le titre de Libération. Déplacement annulé, intervention télévisée repoussée. La guerre a gelé la course des prétendants à l'Élysée qui, à droite comme à gauche, ont condamné l'attaque russe, rappelle Libération. La campagne reléguée au second plan, confirme Le Parisien aujourd'hui en France. On comprend, compte tenu de la situation, explique un conseiller de Marine Le Pen, mais ça va priver la campagne des débats de fond et la polariser sur la guerre en Ukraine, avec la crainte que la situation ne profite à Emmanuel Macron.
Oui, merci à vous Benjamin Glaise, et on continue notre revue de presse avec Philippe Chapelot, hein, journaliste au service Monde de Ouest France, spécialiste politique étrangère et auteur aussi d'un blog. Bien sûr, bonjour Philippe Chapelot.
Bonjour.
Bonjour. Donc évidemment, il y a Ouest France d'un côté avec cette une que l'on montre pour ceux qui nous regardent en fait sur la chaîne YouTube, avec un titre effectivement assez fort autour de Vladimir Poutine. Et puis vous tenez en parallèle ce blog aussi. Donc comment dans ces conditions vous alimentez en permanence le journal tout en alimentant votre blog ?
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blog Ligne de Défense a été créé il y a une douzaine d'années. mais qui fait partie intégrante de la rédaction de Ouest-France. Ouais. Donc c'est un support supplémentaire qui s'inscrit dans notre dispositif.
Oui, oui, c'est ça. Donc, et évidemment, qu'est-ce que vous mettez en une ce matin, à la fois sur votre blog et Ouest-France ?
Alors, nous avons essayé d'être le plus exhaustif possible, avec de l'information qui soit à la fois, et ça c'est important, fiable, et puis qui soit rapide, parce que l'équipe de la rédaction a mis en place un dispositif assez vaste, qui n'a rien d'exceptionnel dans un sens, parce que Ouest-France réalise en permanence de gros efforts sur l'international, mais c'est un dispositif qui vise à avoir une information, comme je le disais, fiable et surtout rapide, parce qu'il faut alimenter, bien sûr, non seulement le quotidien, le blog, mais aussi tous les sites et les supports numériques de Ouest-France.
Ouais. Donc, puisque vous avez ce blog autour de la défense, est-ce que, finalement, sur un plan militaire, et pas que sur un plan diplomatique, mais on a été surpris par la rapidité d'exécution de Vladimir Poutine ?
Surpris, je ne sais pas. Non. On était quand même en attente. Il y a 2 mois que les préparatifs étaient connus. Ce qu'il fallait, c'est ne pas être surpris. Donc nous n'avons pas été surpris, et je pense que de nombreux collègues non plus. Chacune des rédactions a fait son travail parce que tout le monde était dans un dispositif prépositionné, je dirais, dans les rédactions. Après, ce qu'il fallait faire, c'était essayer de comprendre quelle était la manœuvre russe pour l'expliquer du mieux possible à nos lecteurs, pour éviter de leur donner des informations fragmentaires, certainement fiables, mais qui n'auraient pas eu le lien les unes avec les autres, pour donner une vision assez synthétique et cohérente.
Ouais. Sur un plan factuel, comment vous voyez en fait les choses là ? Parce que les Russes avancent en fait très vite. Hein. Ils sont jusqu'à Kiev. C'est une. On peut aller vers ce qu'on appelle une guerre éclair, quoi, pour prendre le contrôle de l'Ukraine.
Je pense qu'on aurait pu utiliser l'expression guerre éclair hier soir si l'aéroport de Gostomel était tombé aux mains des parachutistes russes et que le pont aérien, la tête de pont qui était espérée par l'état-major russe avait été créé. Or, la résistance des forces ukrainiennes a été assez remarquable et les parachutistes russes qui avaient été héliportés dans la matinée n'ont pas réussi à sécuriser le périmètre et l'arrivée d'une vingtaine de gros porteurs russes a été annulée ou en tout cas retardée. Donc ce matin, on voit bien que il y a une évolution de la stratégie russe, en tout cas de la tactique, puisqu'on a de nouveau des poussées terrestres avec des forces blindées au sud du côté de Kerosk, oui. Et puis toujours visant le fameux aéroport de Gostomel, qui est un aéroport assez important, puisque c'est un aéroport de fret, et qui tient cet aéroport pourra débarquer énormément de matériel, et foncer vers la capitale qui est à 25 km.
Oui, c'est ça. Et sur un plan, encore une fois, factuel, parce que beaucoup s'interrogent, est-ce que l'Europe, la France, va se retrouver impliquée dans ce conflit ? Il n'est pas question, et ce n'est pas prévu hein, dans les accords de l'OTAN, d'intervenir comme ça, sauf puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc aujourd'hui, ce n'est pas prévu que militairement, on aille sur ce sol ukrainien.
Non, absolument pas. Et c'est bien ce qu'a redit hier soir, ou en tout cas cette nuit, le président de la République. Mais le président de la République et nos alliés de l'OTAN sont en train de discuter des mesures qui peuvent être mises en place de façon à protéger les autres pays qui ont rejoint l'Alliance Atlantique il y a maintenant une dizaine ou une douzaine d'années. Oui. Donc le président de la République va certainement aujourd'hui annoncer des mesures. Il a donné quelques pistes cette nuit, en particulier avec le déploiement qu'il avait déjà annoncé d'un bataillon français en Roumanie, le renforcement de la présence aérienne française dans la Baltique.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Je ne sais pas, finalement.
Oui, oui, oui. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Chapleau, c'est à lire dans Ouest France, et également, bien sûr, pour tous les auditeurs et l'ensemble des internautes qui veulent suivre ça, sur votre blog, Ligne de Défense, c'est tout attaché, blog.westfrance.fr. Merci, hein, Philippe Chapleau, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, ça continue,
et
évidemment,
ça continue,
notre
débats.
Édition spéciale.
Les débats, bien sûr, avec nos éditorialistes du jour. Hein. Éric Revel sera avec nous juste après 9h. Thierry Guerrier, toujours avec nous. Vos appels 0826 300 300, et Frédéric Dabi sera avec nous ce matin, directeur général de l'IFOP. On fera un point justement sur les traits de caractère peut-être d'Emmanuel Macron.
Vous... Oui, parce qu'il y a une enquête en fait de l'IFOP. Hein. Chaque vendredi, nous avons en plus de notre enquête du Rolling sur les traits de caractère. La semaine dernière, vous vous souvenez, c'était les traits de caractère comparés entre Marine Le Pen et Éric Zemmour là ce matin, c'est à la fois donc Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Particulièrement intéressant, c'est à suivre.
Et appelez-nous 0826 300 300 pour participer bien entendu au débat du jour, 8h46.